Fin du programme de quantitative tightening de la Fed. Le fameux QT terminé depuis le lundi 1er décembre 2025. Quel impact sur le marché des changes ? Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast and Forex où nous allons parler, où je vais vous expliquer historiquement, maintenant et puis dans le futur, quel impact peut-on attendre sur le marché des changes flottant, le fameux Forex, alors essentiellement drivé par la tendance de fond du dollar US sur le marché des changes. Donc en réalité, la question est de savoir quel impact la fin du QT de la Fed peut avoir sur le dollar américain. Nous allons nous servir du passé. Nous allons aussi regarder le présent et puis nous projeter. Alors, nous projeter, c'est-à-dire, comme je le fais souvent, faire des scénarios argumentés. Et puis, à mesure que le temps va passer, eh bien, nous serons en mesure de voir, de déterminer quel choix aura fait le marché. Alors déjà, première question, je vous la pose, nous échangeons là tranquillement. La fin du programme de quantitative tightening de la Fed, qu'est-ce que c'est ? Imaginez, un ami vous pose la question, il tombe sur un article sur le sujet. Bon, enfin bref, vous en parlez quoi. Et vous êtes un peu sur les marchés, forcément, bah, vous êtes tous investisseurs, je pense ici, sinon vous ne seriez pas là à regarder la vidéo, à moins que vous soyez quand même là pour me regarder raconter mes petites histoires, même si vous n'êtes pas sur les marchés. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous en remercie. Mais revenons à notre sujet. Vous souhaitez expliquer à un ami, votre compagne aussi, n'importe qui s'intéresse à l'investissement, un frère, une sœur, des parents. De manière simple, en quoi consiste la fin du QT de la Fed ? Non, parce que le quantitative easing de la Fed, le programme de quantitative easing, tout le monde sait à peu près l'expliquer, on va dire impression monétaire, et encore, ça ne veut rien dire, impression monétaire. Non, non, moi je veux que vous soyez capable d'expliquer concrètement ce que c'est. C'est bien marrant, impression monétaire ou fin du programme de quantitative tightening. Mais ça marche comment ? C'est pas la Fed qui donne de l'argent. Comment ça marche ? Par quel mécanisme ? Il faut comprendre au moins les bases. Sinon, à partir de là, si on prend simplement un titre et puis on a une idée vague de l'impact et qu'on base ses stratégies d'investissement dessus, c'est pas très sérieux, c'est pas très solide et ça peut mener d'ailleurs à une mauvaise interprétation des choses et donc à de mauvais investissements. Donc, dans cette première partie de cette nouvelle édition du Fast and Forex, je vais vous expliquer en quoi consiste la fin du QT. D'ailleurs, on va voir que ce n'est pas la première fois que le programme de quantitative tightening de la Fed se termine. Il y aura une deuxième partie. Je me relis, hein, mais je suis un peu myope. Je suis à la fois astigmate, myope, tout ce que vous voulez. Donc, parfois j'avance, parfois je recule, ça dépend des jours. Bon, en plus, j'ai la lumière en pleine face là. Donc, la fin du QT de la Fed, quel impact sur le dollar américain ? Alors, quel impact cela a eu dans le passé ? La fin du QT, mais aussi le début du QT et même le début du QE. Alors, déjà, là, on en arrive à un point dans la réflexion. La fin du programme de quantitative tightening, c'est différent de l'engagement d'un programme de quantitative easing. Et c'est encore très différent du début d'un programme de quantitative tightening. D'accord ? Donc là, nous sommes depuis lundi dans la fin d'un programme de quantitative tightening. Nous ne sommes pas dans le début d'une phase de quantitative easing. Ça peut être l'étape intermédiaire, c'est l'étape nécessaire, mais l'un n'entraîne pas l'autre, sauf si la politique monétaire devait évoluer pour des raisons macro d'ici là, mais pas cette année. Alors, direz-vous, l'année prochaine n'est pas loin. Oui, on aura l'occasion d'en reparler mille fois. Troisième partie, le bilan de la Fed va donc se mettre à plat. À partir de là, les possibles sont connus. Le bilan de la Fed se met à plat. Il peut rester plat, reprendre le chemin de la baisse ou remonter. Quel impact du coup sur le dollar et dans quelles circonstances, quel contexte ? Le dollar, le FX de manière générale. Quatrième partie, je vais vous montrer qu'au stade actuel, avec les données qui sont à ma disposition, rappelez-vous, le shutdown a mis en retard toutes les datas, et notamment les datas de positionnement institutionnel. Je vais être en mesure, là, de... Alors, il y a encore au moins un mois de retard. Chaque semaine qui passe, il y a un rattrapage. Donc là, j'ai à peu près les données jusqu'au 2 tiers d'octobre. Et pour le moment, les institutionnels ne passent pas à l'achat sur le dollar. D'ailleurs, le dollar, n'a pas franchi de résistance. Rappelez-vous, j'ai traité le sujet la semaine dernière, le fameux chemin, la fameuse croisée des chemins technique, le niveau pivot n'est pas dépassé. Pour l'instant, on n'est pas dans le bis repetita de la seconde année du premier mandat de Trump. Ce sera peut-être le cas d'ici janvier, mais pour le moment, le niveau technique, le signal n'est pas donné. Alors justement, le QT de la Fed s'arrête. Est-ce que d'après vous, la fin du programme de quantitative tightening de la Fed peut favoriser un breakout haussier du dollar ou pas? Qu'en pensez-vous? Que dit le passé? Que dit le futur? Que dira le futur? On va regarder ça. Mais concrètement, je vous explique, de manière très simple, avant qu'on plonge dans les slides. Les banques commerciales ont toutes, auprès de la Réserve fédérale des États-Unis, un compte dit de réserve. Vous savez, les fameuses réserves bancaires. Les banques commerciales ne se prêtent pas entre elles et ne prêtent pas à l'économie au doigt mouillé en mode open bar. Non, les banques commerciales prêtent parce qu'elles ont des capitaux propres aussi. Les banques commerciales ont une capacité de prêt qui est justement liée à ces réserves qu'elles détiennent auprès de la banque centrale. Grosso modo, vous prenez les réserves des banques auprès de la banque centrale, vous y appliquez un coefficient multiplicateur, je simplifie à mort, vous y appliquez un coefficient multiplicateur, ça vous donne la capacité de prêt des banques à l'économie et elles se prêtent aussi entre elles sur le marché monétaire. Le programme de quantitative easing, ça consiste en quoi? La banque centrale achète des obligations aux banques, les obligations passent des banques vers la banque centrale, et en contrepartie, la banque centrale crédite le montant équivalent sur le compte de réserve de la banque commerciale qui lui a vendu l'obligation. Comprenez ce que je veux dire? Elle crédite la somme sur le compte de réserve de la banque qui lui a vendu l'obligation. Donc, le fait que la banque centrale achète des obligations à la banque commerciale fait augmenter les réserves bancaires et donc permet aux banques de prêter davantage. Alors, de manière très simple, en quoi consiste cette fin du programme de quantitative tightening de la Fed? Durant le programme de quantitative tightening, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les obligations arrivent à échéance. Lorsque les obligations arrivent à échéance, donc elles sont remboursées, la Fed reçoit l'argent, et elle ne réinvestit pas cette somme d'argent. Elle ne la réinvestit pas. Si elle ne la réinvestit pas, eh bien l'écriture qui avait été passée sur le compte de réserve des banques commerciales auprès de la Fed au moment du programme de quantitative easing est effacée. C'était ça le principe du programme de quantitative tightening. À chaque expiration des obligations, l'écriture passée sur le compte de réserve, les réserves des banques diminuaient avec le bilan de la Fed. Eh bien, la fin du programme de quantitative tightening consiste justement à mettre fin à cette diminution du bilan de la Fed qui s'accompagnait donc d'une diminution parallèle des réserves des banques auprès de la Fed. En clair, le bilan de la Fed se met à plat, les réserves bancaires se mettent à plat. Donc, la fin du QT est une neutralisation du bilan de la Fed. Et en fait, il commençait à y avoir des pressions sur le marché monétaire, et notamment la façon dont les banques se prêtent entre elles, et la Fed voulait donc mettre une fin à cette baisse des réserves bancaires. Voilà, la liquidité en dollars, si vous voulez, va se mettre à plat. Attention, la liquidité en dollars ne va pas rebondir. Alors ça, il y a plusieurs cas de figure qui sont possibles, et c'est justement ce dont on va parler dans cette nouvelle édition du Fast & Forward.
Du programme de quantitative tightening de la Réserve fédérale, quel impact sur le marché des changes? Chers amis, installez-vous confortablement, je déclare la session ouverte. La session étant ouverte, le rideau s'ouvre. Le plan, je viens de vous le donner à l'oral, il y aura donc 5 parties. Le plus important, chers amis, est donc de bien comprendre que depuis ce lundi 1er décembre 2025, la fin du programme de quantitative tightening de la Fed est actée. Donc ce programme de quantitative tightening avait commencé en 2022. Et donc, vous avez bien compris le mécanisme. Si le QT s'est arrêté depuis le 1er décembre, les obligations qui arrivent à expiration, rappelez-vous que pendant le QT, le principe était de ne pas réinvestir ces fonds. Et donc mécaniquement, bilan de la Fed et réserves bancaires diminuait. On parle là de la liquidité en dollars. Eh bien, le QT étant terminé, lorsque l'obligation arrive à expiration, la Fed va réinvestir la somme. La Fed va réinvestir la somme en obligations. Par conséquent, le principe du QT qui consistait à effacer le jeu d'écriture sur le compte des réserves des banques commerciales ne se fera plus. Il va y avoir donc une mise à plat de la liquidité en dollars, une mise à plat du bilan de la Fed et des réserves bancaires. Voilà donc quel est le principe. Alors, l'histoire L'histoire est toujours riche d'enseignements, surtout en analyse des marchés financiers, puisque les patterns se répètent. Pas à la journée près, pas à la semaine près, mais lorsque les fondamentaux coïncident, souvent l'action des prix peut coïncider. Il n'y a pas beaucoup d'exemples passés. En réalité, la politique monétaire non conventionnelle de la Fed a commencé en 2008, la crise financière à l'époque, la crise des subprimes, la faillite de Lehman Brothers, etc. Il faut bien distinguer l'engagement d'un programme de quantitative easing, de l'engagement d'un programme de quantitative tightening, de la fin d'un programme de quantitative tightening. Il y a dans l'histoire, alors, ce n'est pas exactement vrai pour septembre 2012, mais nous ne sommes pas loin de l'esprit de la fin d'un programme de quantitative tightening, puisqu'il s'agissait en réalité plutôt ici de la fin du ralentissement d'un QE. D'accord ? Donc le principe est le même. Il y a donc trois exemples. L'exemple donc de septembre 2012, où en réalité la Fed a repris un momentum croissant dans le cadre de son programme de quantitative easing. Août 2019 fut stricto sensu la fin d'un programme de quantitative tightening. Voilà, donc suspendu en 2019. Et donc, depuis le lundi 1er décembre 2025, c'est à nouveau la fin d'un programme de quantitative tightening. Programme de quantitative tightening qui avait commencé donc en première partie de l'année 2022. Bien sûr, un des outils majeurs pour lutter contre l'inflation. Programme de quantitative tightening, réduire la liquidité en dollars. En parallèle de ça, politique monétaire conventionnelle, hausse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Tout cela a été fait donc pour lutter contre l'inflation. Nous avons donc deux exemples passés de fin du QT. D'accord ? Ou si vous voulez, de mise à plat du bilan de la Réserve fédérale des États-Unis. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir quel a été l'impact sur les marchés financiers, et pas seulement l'impact sur les actifs risqués en bourse, pas seulement l'impact sur le marché actions, mais l'impact globalement sur le dollar américain, sur le marché d'échange, sur les taux d'intérêt, et sur en réalité toutes les classes d'actifs. Premier graphique que je vous montre, tout simple. Donc, vous avez retenu trois dates. Septembre 2012, qui fut en réalité donc la fin du ralentissement d'un programme de quantitative easing, mais en bleu, vous avez le bilan de la Fed. D'accord ? Vous voyez bien donc ici, il y avait donc un ralentissement, il y avait donc une légère baisse du bilan de la Fed. Septembre 2012, fin du QT, reprise de la hausse du bilan de la Fed. Ensuite, à nouveau, mise à plat. Point de départ d'un programme de quantitative tightening, fin du QT, rebond du bilan de la Fed, explosion du bilan de la Fed. Attention, là c'est la fin du QT, ici c'est le début d'un programme de quantitative easing. Je vais être de plus en plus précis à mesure que la vidéo va avancer, mais il faut bien distinguer début d'un programme de quantitative tightening. Par exemple, ici vous avez le début d'un programme de quantitative tightening. Ici, vous avez le début d'un programme de quantitative tightening. Ensuite, il y a sa fin et l'engagement d'un QE n'est pas mécanique. Mais donc, première chose que l'on peut regarder, c'est que, grosso modo, la fin d'un programme de quantitative tightening produit, pas le jour même, pas la semaine près, mais sur un horizon de temps moyen-long terme, prochaine semaine, prochain mois, un impact haussier ici sur le S&P 500. Ici, de la même façon, la fin du QT avait produit un impact haussier sur le S&P 500. Là, vous allez me dire, il y a un énorme crash, mais ce fut le crash de la crise sanitaire. Encore une fois, l'évolution du bilan de la Fed est un facteur parmi d'autres au sein de cette conjonction de fondamentaux qui influence l'économie. Et à un moment ou à un autre, si un fondamental arrive à une nature exceptionnelle comme une crise sanitaire, ça prend le dessus. Et qu'est-ce qui a permis au fondamental violent de la crise sanitaire de cesser son action baissière ? Oui, bien sûr, les vaccins, etc., la réduction de la pandémie, mais qu'est-ce qui avait permis l'explosion du marché actions ? Ce ne fut pas la fin du QT, ce fut l'engagement d'un programme de quantitative easing. Programme de quantitative easing, la Fed se met à acheter massivement chaque mois des obligations, et donc chaque mois son bilan augmente, chaque mois les réserves bancaires augmentent, et si les réserves bancaires augmentent, la capacité de prêt des banques à l'économie augmente, la liquidité en dollars augmente.
Nous arrivons donc là quand même, depuis ce lundi 1er décembre, c'est la fin du QT. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, c'est quand même, c'est pas un événement anodin si vous voulez, j'ai voulu faire cette vidéo parce que ce n'est pas anodin. C'est un événement finalement assez rare. C'est la troisième fois que le QT se termine depuis 15 ans. Donc voilà, ça va être intéressant de voir maintenant quel impact. Alors le sujet ici, c'est bien sûr le marché des changes et c'est le dollar. La fin d'un programme de quantitative tightening n'est pas un facteur haussier. Comprenez bien que la liquidité en dollars se met à plat. Nous sommes dans un débat depuis plusieurs semaines quant à savoir si le dollar va faire un scénario de bis repetita, seconde année du second mandat de Trump, la seconde année du premier mandat a été bullish, année des mid-terms, élection de mi-mandat. Vous savez que d'un point de vue technique, vous savez où se trouve le dollar. Reprenez ma vidéo la semaine dernière, mais je vais en dire un mot. Il est sous un pivot technique qui pourrait déclencher, donner sa tendance des 12 prochains mois. Ça peut être bullish si on dépasse le pivot, mais ce n'est pas le cas. Alors forcément, la fin du QT ne va pas aider au choix bullish. Si au contraire, là, la Fed avait enclenché un programme de quantitative tightening, là maintenant tout de suite, clairement le dollar allait dépasser la résistance. Là, ce n'est pas le cas. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'engagement d'un programme de quantitative tightening qui a un effet haussier. C'est l'engagement d'un QT qui a un effet haussier. La fin du QT a un effet plus ambivalent. Alors, on va repasser directement ici le graphique, je l'ai construit ici sur TradingView. Dollar américain et début du QT, fin du QT. Prenons donc le graphique depuis 15 ans. En bleu, toujours le bilan de la Fed. Première information qui saute aux yeux, et en bougie japonaise, vous avez le dollar, représenté ici par le dollar US face à un panel de devise de son code, son ticker DXY. Clairement, une chose s'impose. Le début d'un QT, c'est bullish pour le dollar. Regardez ici, chute du bilan de la Fed, QT starts, explosion du dollar. Ici, QT starts, alors le dollar avait déjà commencé son rebond en amont, pour des raisons macro, pour des raisons aussi d'anticipation de la fin, parce que le marché souvent anticipe. Il anticipe. Mais clairement, lorsque le QT commence, le dollar pousse. Soit il continue de pousser, soit il commence à pousser. Dans tous les cas, le QT a un impact haussier. Maintenant, la fin des programmes de quantitative tightening a un impact au mieux neutre, au pire baissier, enfin au pire, il n'y a pas de jugement de valeur, neutre à baissier. La fin d'un programme de QT a un impact neutre à baissier. D'accord ? Alors oui, par contre, effectivement, un programme de quantitative easing, un programme de quantitative easing a un impact baissier sur le dollar, puisque la liquidité en dollars augmente. Regardez là, lorsque le QE de la Fed, le QE Covid a été engagé, le dollar a droppé pendant plusieurs mois. Voilà. Donc, on comprend l'impact du début du QT, l'impact d'un QE. On voit que c'est beaucoup plus ambivalent la fin d'un QT. Surtout que la Fed insiste bien. Au stade actuel, il ne s'agit pas d'engager un programme de quantitative easing. La ligne bleue ici, qui est le bilan de la Fed, va se mettre à plat. Mais oui, ce n'est pas un facteur haussier. Ça ne va pas aider à un choix bullish du dollar américain. Ça, c'est donc la première chose que nous pouvons savoir. Alors, attention quand même, moi, quand je construis mes PowerPoints, je construis mon raisonnement. Attention, là, on peut se dire, oh là, j'ai trouvé la martingale, ça y est, bilan de la Fed, et puis c'est bon, je sais où iront les actifs. Tout de suite, disclaimer de mi-présentation. Non, c'est un facteur parmi d'autres. Et en bourse, les fondamentaux, c'est toujours pareil, il y a une balance de fondamentaux. Le mouvement boursier qui va avoir lieu sera celui vers lequel les fondamentaux, la balance va peser. Et dans quelle proportion ça pèse ? 90-10, 60-40, voilà. En tout cas, la fin du programme du quantitative tightening de la Fed ne va pas aider le dollar à faire un breakout haussier. C'est ce que déjà vous pouvez retenir. Alors maintenant, le bilan de la Fed va se mettre à plat. Depuis ce lundi, il se met à plat. Quelles sont les perspectives et quelles sont les possibilités et en lien avec quoi ? J'ai voulu ici passer en revue donc 5 cas de figure. Alors je vous rappelle donc que le dollar, vous savez où se trouve le dollar. Le dollar est à la croisée des chemins techniques. Alors regardez, il n'a toujours pas franchi le pivot. Vous connaissez le topo, reprenez ma vidéo la semaine dernière. Là vous aviez la baisse de la première année du premier mandat de Trump, la mise à plat, la double divergence, le breakout, le pivot, la phase bullish.
Là, la phase de baisse liée au Covid, la mise à plat, la pattern, la double divergence, le pivot, la phase bullish. La phase de baisse, la mise à plat, les divergences, hop, et il n'y a pas le breakout. Voilà. Retenez une chose, la fin du QT ne va pas aider à faire la même chose. Il y aura peut-être d'autres fondamentaux qui vont le faire, mais pour l'instant, ça ne va pas aider. Donc, plusieurs cas de figure sont possibles. Je les ai tous rassemblés. Premier cas de figure, le bilan de la Fed se met parfaitement à plat. Nous entrons dans une phase de neutre en termes d'évolution de la liquidité en dollars. La Fed se contente donc de réinvestir les obligations qui arrivent à échéance. Elle ne va donc pas procéder à la destruction de monnaie et les réserves bancaires se mettent à plat. Les réserves bancaires se mettent à plat. Il n'y a pas de nouveaux achats, il n'y a pas de destruction de monnaie. L'impact sera neutre à légèrement bearish pour le dollar américain. En clair, dans ce cas de figure, on peut imaginer finalement que le dollar se maintienne ici en range un certain temps. Oui, parce que à chaque fois, c'est pareil, j'insiste là-dessus, on se dit tendance haussière ou tendance baissière et on oublie que dans les deux tiers du temps, les marchés sont en range. Donc là, on a des choses hyper propres, hyper bien construites, de passage de phase baissière à phase haussière, de phase baissière avec tous les standards de l'analyse technique. Et donc, l'on se dit, on va faire la même chose. Là, c'était la première année. Ici, c'était la seconde année du premier mandat de Trump. Mais non, le marché peut faire le choix. Si tout le monde attend ça, le marché peut faire le choix de faire ça. Se mettre complètement à plat toute l'année prochaine. Faire un range ici, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, une mise à plat du bilan de la Fed irait dans ce sens du scénario. Deuxième scénario, la Fed réengage un quantitative easing léger. Un léger quantitative easing. On irait au-delà du simple réinvestissement des MBS et des obligations qui arrivent à échéance. Donc, un petit programme d'achat, notamment pour assurer la liquidité au sein du marché monétaire, ne pas créer de stress bancaire, pas un full QE programme. Là, l'impact, oui, serait légèrement baissé pour le dollar américain. Troisième cas de figure, là, donc, il y a vraiment un problème de liquidité, un problème avec le shadow banking, les banques ne se prêtent entre elles, il y a un stress bancaire majeur, la Fed n'a pas le choix, elle réengage un programme de quantitative easing. C'est un scénario profondément baissier pour le dollar américain. Dans ce cas de figure, si le bilan de la Fed devait reprendre une trajectoire haussière, clairement cet impact serait baissé pour le dollar américain. Le dollar ne serait pas en mesure de franchir ici ce niveau pivot et pourrait même revenir chercher ce niveau des 94 points ici, qui fut à l'époque le déclenchement du retournement haussier de novembre 2021. Quatrième cas de figure. Bon, alors, là pareil, le bilan de la Fed se met à plat, monte un peu, redescend, une sorte d'oscillation en fonction donc des conditions macroéconomiques, des conditions de stress bancaire d'un mois à l'autre. Il y aurait là aussi une rédaction neutre du dollar américain, neutre à légèrement baissière. Et enfin, cinquième cas de figure, problème majeur d'inflation, seconde vague d'inflation, les tarifs douaniers commencent, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement, c'est même le contraire, créent une seconde vague d'inflation. Bref, stress inflationniste, et là, la Fed n'a pas le choix. Elle doit réengager un programme de quantitative tightening. Elle doit de toute urgence réabaisser la liquidité en dollars parce que l'inflation remonte à 3,5-4%. Et là, autant vous dire que vous aurez un signal à la fois technique et parfaitement justifié sur le plan des fondamentaux, un signal bullish sur le dollar. En cas de réengagement du QT, vous aurez le même signal ici, printemps 2018, et le même signal qu'à l'automne 2021 avec un dollar qui remontera tout en haut. Mais vous comprenez bien que ce scénario est plutôt marginal. Et comprenez bien que là, la Fed ayant mis fin à son QT, s'écarte l'hypothèse de ce scénario-là. Elle s'écarte de plus en plus. Et je m'oriente plus dans ma réflexion vers l'hypothèse d'un trading range que nous n'aurions pas vu depuis longtemps. Alors, peut-être quelques mois avant plus tard, mais vous voyez ce que je veux dire? Dans cette réflexion du dollar et dans cette envie de vouloir répéter ce que fut ici la seconde année du premier mandat de Trump, et là nous allons avoir la seconde année du second mandat, beaucoup jouent ce scénario. Attention, la fin du QT de la Fed ne plaide pas donc en faveur de cette hypothèse. D'ailleurs, alors là aussi, rappelez-vous, hein, les données du rapport Commitment of Traders sont en retard à cause de ce shutdown. Je fais ce que je peux pour essayer de les récupérer. Enfin, je fais ce que je peux. Je me renseigne tous les jours. Je vois comment les données arrivent. J'en ai maintenant. Ils sont à ma disposition. Et donc, d'après les données, il y a encore un mois et demi de retard. Hein. Donc, on a rattrapé 2-3 semaines. Mais au stade actuel, la position nette sur les contrats à terme euro-dollar a légèrement baissé. Mais vous voyez ici l'histogramme des positions short euro-dollar, donc on raisonne à l'envers pour le dollar américain, est parfaitement plate. Il n'y a pas d'augmentation. Si les institutionnels se mettaient à acheter le dollar, mécaniquement, ce sont des positions short euro-dollar. Les positions short euro-dollar sont parfaitement plates. Ça, ce sont par contre les données de mi-octobre. Et je pense que d'ici 2 semaines, j'aurai toutes les données à jour. Là, cette semaine, il va y avoir 2-3 mises à jour encore. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bien sûr, là, nous ne sommes que à mi-octobre. Donc, voilà. Mais en tout cas, on voit que dans les données disponibles, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de renversement à la hausse du positionnement long des institutionnels sur le dollar américain. Et donc, justement, alors sur le plan technique, écoutez, là aussi, il faut être factuel. Le dollar américain ne valide pas de renversement haussier tant que le dollar US face à panier de devises, donc le fameux DXY, se maintient sous la résistance des 101-102 points. Donc cette résistance des 101-102 points, déjà tout d'abord, je vous remonte le graphique ici en données mensuelles, puisque nous bénéficions d'une nouvelle clôture technique en données mensuelles. J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. Et donc vous voyez, hein, sous les 101-102 points, eh bien, il n'y a pas de signal bullish sur le dollar américain. Donc, pour le moment, c'est une phase de range sur le dollar US. Ça et ça, les signaux techniques ne sont pas en retard. De la même façon, donc en données hebdomadaires, il y a donc beaucoup de comparaisons avec ces phases latérales. Mais toutes ces phases latérales de 2018 et 2021 qui se sont traduites par une poussée haussière du dollar se sont transformées en phases de renversement haussier dès lors qu'elles étaient validées par un breakout. Et là, le breakout se fait attendre. Le breakout n'a pas eu lieu. Et là, il n'y a pas d'histoire de données en retard ou pas. Donc, d'un point de vue technique, il n'y a pas de signal de renversement bullish. Ça va peut-être venir lors d'une clôture hebdomadaire. Ça va peut-être finir par arriver lors d'une clôture mensuelle. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, sous 101-102 points, eh bien, c'est la tendance baissière de fond qui a toujours le dessus. Et regardez, en données journalières, c'est intéressant. Nous sommes, comme ici, dans ce cas de figure-là, il y avait une tentative de dépasser la moyenne mobile à 200 jours, on est repassé en dessous. Le fait de repasser sous une moyenne mobile à une pente baissière, surtout comme à 200 jours, c'est un signal de baisse. Et là, on est en train de répéter le même schéma. Donc, conclusion, sous la résistance des 101-102 points, et même sous la moyenne mobile à 200 jours, l'analyse technique donne toujours un message, en tout cas qui n'est pas bullish pour le dollar américain. Et la fin du QT, vous l'avez compris, n'est pas un argument bullish non plus pour le dollar. C'est neutre à baisser, mais d'autres facteurs peuvent peser. Voilà, chers amis, et bien écoutez, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Fast and Forex. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes et que vous avez passé un bon moment. Merci à toutes et à tous, bonne semaine.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.